Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention que nous avons l'honneur de recevoir Fabienne Boulin-Burjat. Ce soir, je pourrais presque dire dans sa ville, hein, en tous les cas, dans une ville qui lui est chère au cœur et qui est en tous les cas très chère aussi à sa famille. Fabienne Boulin-Burjat est la fille de Robert Boulin. Et cela fait maintenant 31 ans que Fabienne Boulin-Burjat se bat pour un combat qui est absolument exemplaire. Elle s'est longtemps battue, je ne dirais pas seule, parce qu'elle était aux côtés de sa maman, Colette Boulin, aux côtés de son frère. Mais elle s'est battue vraiment dans le silence, hein, avec, on pourrait presque dire, contre les moulins, et pas n'importe quel moulin. Il se trouve que le livre qu'elle publie, elle le publie aux éditions Don Quichotte, et ce n'est pas simplement, je crois, qu'un clin d'œil ou un hasard. Fabienne Boulin-Burjat, d'une certaine façon, sa vie a commencé, sa deuxième vie a commencé lorsque elle s'est rendue compte, en fin de journée, d'un dossier qu'on lui avait fait remettre, que Robert Badinter, avocat de la famille, avait récupéré auprès du parquet en 1980. Et là, elle a découvert, en ouvrant ce dossier, qui était un dossier judiciaire, lié à la disparition de son père, que pendant un an à peu près, plus d'un an, on lui avait fait croire des choses totalement différentes de la réalité. Il se trouve que le 29 octobre 1979, j'ai vu tout à l'heure une dame qui avait une une de Sud-Ouest en main, qui était la une qui reproduisait soi-disant lettre posthume de Robert Boulin. La France s'est réveillée, avec le 30 au matin, avec une information absolument étonnante, incroyable. Un ministre en exercice s'était donné la mort et on avait retrouvé son corps dans les étangs de Hollande. C'est comme ça que l'information circule à l'époque. Moi, je m'en souviens parfaitement. Je commençais tout juste ma thèse de doctorat et on avait retrouvé son corps dans les étangs de Hollande. Voilà. Il s'agissait donc de Robert Boulin. Et je crois que ce n'était pas arrivé, cette situation, depuis Roger Salengros, donc depuis 1936-37. Et donc, à partir de là, l'émotion a été extrêmement forte, bien sûr, mais les regards se sont tournés, concentrés et sont allés du côté à la fois d'une soi-disant affaire qui aurait impliqué Robert Boulin, la fameuse affaire de Ramatuelle, affaire à l'évidence complètement montée de toutes pièces, vers un juge, jeune juge d'instruction, dont le nom allait devenir très célèbre dans les décennies suivantes, Monsieur Van Ruinbeck. Et puis, cet homme aurait donc craqué consécutivement à des campagnes de presse. Et en réalité, en octobre 80, quand Fabienne Boulin-Burjat avec son frère et sa maman découvrent les photos qu'on lui remet, les photos de Robert Boulin à l'Institut médico-légal de Paris, pour reprendre les termes exacts d'un colonel de gendarmerie, le colonel Pépin, qui témoignera bien plus tard et qui a assisté à la sortie du corps de l'étang rompu, donc en forêt de Rambouillet, cet homme avait reçu une bonne dérouillée, je crois que c'est le terme qu'il emploie, une bonne branlée. Il avait été littéralement tabassé. Voilà donc comment l'affaire commence d'une certaine façon. Elle commence évidemment avec la disparition de Robert Boulin, mais cette dimension absolument criminelle apparaît à ce moment-là. Alors, je vais juste lire un très beau passage du livre de Fabienne Boulin-Burja, Le Dormeur du Val, qui va s'expliquer, qui expliquera évidemment le choix du titre de cet ouvrage. Le passage, c'est page 123, c'est le début d'un chapitre qui s'appelle, et qui est intitulé entre guillemets, « Vous êtes sur de la nitroglycérine ». Vous êtes sur de la nitroglycérine. Je crois que c'est une expression qui est employée par Achille Peretti, maire de Neuilly, qui dit « Vous pouvez faire sauter la République ». Public, il y a à votre maman un moment. Hein.
Oui, c'est Marguerite Laroche-Navarro qui était voilà. Une amie.
Alors voilà le texte, voilà le passage. Nous formions un clan. Peut-être était-ce la première chose qui frappait notre entourage. Dans la famille Boulin, chacun s'était forgé au contact des autres. Nous étions solidaires et complémentaires, comme les doigts de la main. Après la mort de mon père, la peur se substitua vite à l'état de choc des premiers temps. Nous avons vécu 10 ans, entre parenthèses, uniquement soutenus par l'amour que nous nous portions mutuellement. Quand l'hypothèse de l'assassinat s'est fait jour, mon frère et moi avons peiné à l'envisager. Mais dans le cas de mon père, il n'était pas besoin d'imaginer un complot d'une envergure telle qu'il impliquerait toute la magistrature et la police. Il suffisait de quelques hommes bien placés, agissant au bon moment. Ce qu'ils firent, et leurs collègues suivirent, mutuellement, par couardise, esprit de soumission, intérêt ou paresse intellectuelle. Il est si reposant de se laisser aller à l'ordre des choses tel qu'il a été officiellement établi. Il est si difficile d'y voir clair lorsque les informations qui aideraient à dévoiler la vérité sont éparpillées, ici et là, et que personne n'a la charge de les rassembler. La vérité saute rarement aux yeux, il faut aller la chercher, elle ne se donne pas, elle se conquiert. Et donc Fabienne Boulin, vous êtes à la conquête de cette vérité, et je crois que ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce livre, qui se lit, je voudrais presque dire comme un roman, mais ce n'est pas un roman, c'est une histoire incroyable qui se déroule dans la France, des années 1970, 80, 90, 2000, jusqu'au dernier rebondissement. Je n'ai jamais vu dans une affaire judiciaire, je crois un peu connaître, on va dire, l'histoire contemporaine, autant de disparitions de pièces à conviction, autant d'erreurs dans la procédure, autant d'à peu près. Et malgré tout cela, Fabienne Boulin-Burja continue son combat à la conquête de la vérité. Fabienne, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire finalement, comment et pourquoi, et qu'est-ce que vous demandez précisément, pourquoi vous êtes engagé dans ce combat, et en quoi il a une dimension exemplaire?
Alors, exemplaire, je ne sais pas, bonsoir à tous, merci d'être là. Exemplaire, donc c'est à vous de le dire, c'est vrai que c'est une affaire qui est symptomatique des mœurs politiques, de dysfonctionnement de la justice. Bon, c'est donc un combat qui fait, j'espère, avancer aussi notre réflexion sur notre démocratie. C'est un combat de 31 ans. Effectivement, ça fait... mon père est mort il y a 31 ans, mais l'omerta, la difficulté de faire la vérité, continue encore aujourd'hui. Il faut savoir que la thèse officielle ne repose que sur des arguments d'autorité. Et moi, je suis quelqu'un de rationnel. Alors, c'est vrai que quand toutes les autorités du pays m'ont dit qu'ils avaient fait une enquête absolument remarquable, qu'ils n'avaient rien laissé de côté, et moi qui étais élevée dans l'idée du service de l'État, mon père qui nous avait toujours montré qu'il fallait toujours, effectivement, être exemplaire, je n'avais pas imaginé qu'on puisse nous mentir. Et ça, le mensonge d'État s'est installé immédiatement. Alors, ma mère a tout de suite su qu'il s'agissait d'un assassinat. Mon frère et moi, on a eu du mal à remettre en cause ce pays des droits de l'homme, ce pays où, justement, on croyait que c'était une démocratie bienveillante. Donc, je vous disais, moi, je suis quelqu'un de rationnel. J'ai fait une enquête, j'ai vérifié les faits, j'ai regardé les témoignages. Et c'est incroyable de voir que cette thèse officielle ne repose sur absolument rien de tangible. C'est-à-dire qu'on me dit tout de suite qu'il est mort en ayant avalé une forte dose de barbiturique. Or, il n'y a jamais eu de barbiturique. Et quand je retrouve encore dans les dépêches de AFP en 2000, en juin dernier, qui parle d'un suicide en ayant avalé une forte dose de barbiturique, c'est insupportable. Quand le mensonge d'État, quand on me dit qu'on a retrouvé le corps de mon père à 8h40 et que l'on sait maintenant que, parce que, pourquoi on le sait ? Parce que l'ancien Premier ministre, Raymond Barre, dans ses mémoires, dit qu'il a été réveillé à 3h du matin et qu'on lui a annoncé qu'on venait de retrouver le corps de Robert Boulin, qu'il s'était suicidé en ayant avalé des barbituriques. Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, dit, moi, je l'ai su à peu près entre 2h et 3h du matin. Et ils sont 6 personnes au plus haut niveau de l'État qui savent qu'on a retrouvé le corps de mon père. Donc pourquoi on envoie vers 6h40 des motards pour rechercher une personnalité, une haute personnalité susceptible d'attenter à ses jours, et que les motards le retrouvent à 8h40. Personne, encore aujourd'hui, n'a pu m'expliquer ça.
D'autant que, pardon Fabienne, on le retrouve donc dans, on pourrait presque dire, une vasière, enfin c'est un étang, avec une photo de vous, on vous voit d'ailleurs de dos marchant dans cet étang, vous avez reconstitué quelque part la scène, et cet étang descend en pente douce, si j'ai bien compris, je ne connais pas le lieu, il y a beaucoup de vases, il n'y a absolument rien comme objet contendant, aucune pierre, aucun arbre, aucune souche, et on va prétendre que c'est en sortant le corps de l'eau, Robert Boulin a été trouvé dans ce qu'on appelle dans la position du musulman, du prieur musulman, c'est-à-dire pas agenouillé, mais baissé, hein, le regard, la tête regardant vers la voiture.
Hein, oui, c'est ce que dit le gendarme qui a assisté.
Voilà. Et qui dit qu'il est absolument formel, contrairement à ce qu'on lui a dit de dire, contrairement à ce qui a figuré dans les papiers de première constatation revue par le procureur de Versailles qui s'est présenté sur place. Drôle de personnage au demeurant, celui-là aussi, il y a absolument une impossibilité formelle pour que le corps de Robert Boulin et son visage aient frappé quoi que ce soit. Il a été sorti en douceur par les pompiers alors qu'on a prétendu que le visage avait été blessé au moment de la sortie du corps de l'eau.
Oui, alors ça c'est... je disais tout à l'heure que le mensonge d'État est insupportable. Je crois que quand Stéphane Hessel dit qu'il faut s'indigner, il a raison. Quand on parle du nuage de Tchernobyl qui a contourné le territoire français, ça fait rire de nos jours. Eh bien, je crois qu'il ne faut plus en rire. Je crois qu'il faut qu'on trouve que c'est insupportable. On ne peut plus dire ces mensonges d'État, on ne peut pas dire des contre-vérités. Nous, les Français, alors, il y a des gens qui sont malades à cause de Tchernobyl. Nous, en tant que famille de Robert Boulin, on nous a menti, on ne sait pas exactement comment il est mort, mais sur cette vérité, je sais que maintenant, avec le livre de Benoît Colomba, qui est très remarquable, qui s'appelle « Un homme à abattre », et puis mon livre, je crois que la vérité, on l'approche de très près, même s'il y a des détails, mais que la justice nie cette vérité et ses faits, c'est insupportable. Voilà. Donc, je crois que c'est pour ça aussi que j'écris mon livre, c'est pour faire appel aux citoyens, pour dire aux gens, écoutez, ce n'est pas assez de voter une fois tous les 5 ans, et puis on vote de moins en moins, mais qu'il faut se saisir de notre responsabilité de citoyen, parce qu'en fait, tout doit être fait en fonction pour le peuple, par le peuple, et il est évident qu'il faut maintenant que les pratiques changent. Donc cette l'affaire Boulin, c'est pas simplement que je me bats pas seulement pour que mon père retrouve son honneur, que l'on sache toute la vérité, mais c'est aussi parce que je voudrais que mon pays retrouve son honneur à lui, qu'il y ait parce que ça me semble très important quand vous avez... je me heurte constamment au fait qu'il s'agit d'un pouvoir qui est centralisé à Bordeaux, ça veut dire quelque chose quand même, hein, et qui... vous avez un procureur général, quelque chose de absolument français, c'est-à-dire que c'est une pratique judiciaire. C'est le procureur général qui est en charge, qui prend la décision d'une réouverture d'une enquête judiciaire. Il n'est pas obligé de le justifier, de se justifier, et il la prend seul. Et il n'y a pas de recours. Donc, c'est pour ça que j'ai été obligée de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le seul recours que j'ai pour remettre en cause cette décision de ne pas réouvrir l'instruction. Voilà. Et quand vous voyez cette difficulté, c'est-à-dire que la deuxième requête que j'ai faite en 2010, qui était extrêmement bien fondée en droit, Maître Olivier Maurice a vraiment fait un très beau travail. Cette requête s'appuyait sur la jurisprudence de l'affaire Grégory et la famille Villemain avait demandé une réouverture de l'enquête qui lui avait été accordée sur la base des recherches ADN sur le courrier.
C'est-à-dire, pour bien préciser, on considère que les progrès techniques et scientifiques en matière de recherche et d'identification de ce qu'on appelle entre autres l'ADN mitochondrial permet d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui en ressortant les pièces d'un dossier que ce qu'on ne pouvait faire à l'époque des faits dans la recherche des causes de la mort ou dans la recherche des responsabilités éventuelles. Et donc là, il s'agissait d'appliquer la même démarche que celle qui avait été adoptée pour l'identification de l'ADN au dos des timbres de la lettre du corbeau dans l'affaire Grégory, c'est-à-dire de reprendre les fameuses lettres, les 6 lettres posthumes adressées ici et là et soi-disant considérées comme attribuées, on va dire, à Robert Boulin pour vérifier si tout simplement il était l'auteur, celui qui avait collé les timbres en particulier sur ces enveloppes.
Alors, vous voyez que c'est un exemple. Quand je suis...
Là, la décision du procureur a été non.
A été non, mais alors nous étions reçus par le procureur le 7 juin dernier.
7 juin 2010.
2010, pour nous donner son avis sur notre requête et la façon dont il voyait les choses. Vous vous souvenez sans doute que la garde des Sceaux de Libourne, 8 jours avant, a dit que le dossier était clos, qu'il n'était pas question de réouvrir l'enquête.
Cette garde des Sceaux s'appelait comment ?
Voilà, Madame Alliot-Marie. Donc, avant que nous recevions... Non, mais ça, on n'a jamais vu ça. Qu'un garde des Sceaux dise, avant que nous soyons reçus par le procureur général à qui elle appartient de donner une décision. On la connaît 8 jours avant, d'ailleurs on lui a écrit pour savoir si on devait venir le voir, parce que finalement ça servait sans doute à rien. Et non seulement il était gêné à cause de ça, mais il a dû nous avouer que les lettres dont nous demandions l'analyse ADN avaient disparu de son coffre-fort. Or, le coffre-fort du procureur général, il n'y a que 2 personnes qui ont les clés. Ils l'ont cherché. Alors, il y avait aussi un tome entier de l'enquête préliminaire qui avait disparu. Ils cherchaient pendant 1 mois. Et là, il y a eu une enquête des services qui ont enfin, finalement, retrouvé tout ce dossier disparu. Mais alors, qu'est-ce qui s'est-il passé pendant 1 mois ? Parce que moi, attendez, il s'est passé tellement de choses dans ce dossier que maintenant, je commence à douter de la bienveillance de la justice et savoir, parce qu'il suffit vous savez, de mettre les lettres dans un four à micro-ondes et on ne voit plus rien. Bon, donc nous avons dernièrement demandé au ministre actuel de la Justice d'avoir les conclusions de cette enquête et de rendre cette enquête publique. Alors le ministre s'est engagé à nous donner les conclusions. Les conclusions sont arrivées il y a à peu près 3 semaines au cabinet d'Olivier Maurice et en lisant les conclusions, d'abord on s'aperçoit que lors de notre première requête en 2007, il y avait aussi eu, sans que nous sachions déjà, des parties du dossier qui avaient disparu. Et puis nous voyons constamment dans ces conclusions qu'il est fait allusion aux annexes. Or, nous n'avons pas reçu les annexes. Donc, Maître Olivier Maurice dit, bah, écoutez, il nous faut les annexes, parce qu'on ne peut pas comprendre les conclusions. Alors là, il nous envoie une partie des annexes, la semaine dernière. Donc, Olivier Maurice dit, écoutez, moi, avec la moitié des annexes, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas comprendre exactement ce qui s'est passé. Et nous en sommes là. Voilà. On espère un jour avoir quand même toutes les conclusions. Pour vous dire la difficulté, c'est qu'à chaque fois que nous demandons l'examen d'un scellé, ce scellé systématiquement disparaît. Alors, vous savez peut-être que le sang a été volé à l'Institut médico-légal, donc on n'a jamais pu vérifier le valium qui était dans le sang. On a ensuite, quand on a porté plainte en 83, le juge d'instruction a immédiatement demandé l'analyse des poumons, puisqu'on dit que mon père est mort noyé, mais on n'a jamais fait l'analyse des poumons. Donc on ne sait pas s'il est mort noyé ou pas. L'analyse était donc absolument nécessaire. Quand le juge d'instruction décide de faire l'analyse de ses poumons, on leur lui dit « mais c'est pas de chance, on vient de jeter, on a mis de l'ordre et on vient de jeter les poumons au cimetière de Thiers ». Donc le juge décide qu'on va aller chercher au cimetière de Thiers, puisqu'ils nous disent exactement...
Le cimetière de Thiers, c'est là où sont enterrés les indigents. Hein.
Voilà, les indigents et ceux qui donnent leurs organes à la science. Donc, alors évidemment, c'était fait en toute illégalité, parce que comme il y avait un magistrat, on n'avait pas à détruire les poumons. Nous avons donc porté plainte pour destruction de preuves. Parce que nous avons pu amener la preuve que la directrice de l'Institut médico-légal a fait détruire ses poumons alors qu'il y avait un magistrat. Et quand on lui a dit « mais pourquoi vous n'êtes pas adressée au magistrat ?», elle a dit « écoutez, je ne vais pas faire la tournée de tous les magistrats pour savoir celui qui s'occupe quand même d'affaire Boulin. » Il aurait suffi qu'elle téléphone au parquet, elle aurait eu immédiatement, bien sûr, le nom du magistrat. Donc, nous avons porté plainte, nous avons été déboutés. Pourquoi ? Parce que nous avons apporté la preuve qu'il y avait bien des poumons, que légalement, c'était absolument interdit de les détruire, mais le parquet a retenu qu'il n'y avait pas l'intention de nuire, parce que cette directrice, c'était juste pour faire le ménage, bien entendu. Quand nous avons porté plainte aussi pour faux en écriture publique, parce qu'on a changé le jour et l'heure de la mort sur le registre d'état civil.
Ce qui est quelque chose de tout à fait incroyable.
Et c'est 15 ans quand même, de prison en général. Mmh. Eh bien, quand nous avons porté plainte, le juge qui m'a reçu m'a dit « Mais écoutez, il n'y a pas de faux en écriture publique parce que votre mari est venu signer le registre d'état civil. » Mais je dis « Mais attendez, mon mari est venu parce que le lendemain de la mort, il y a Max Delsol qui était inspecteur de police chargé de la sécurité de mon père qui lui a demandé de le suivre sans lui dire pourquoi, qu'il a été pris dans une voiture de CRPJ de Versailles, qu'on l'a amené à la mairie et on lui a dit, alors qu'il était en état de choc, hein, on lui a demandé de signer. Lui, il avait fait confiance. Donc, il n'y avait plus de faux en écriture publique. La famille avait avalisé. Mais il y avait bien un faux en écriture privée. Mais là, le délai de prescription était tombé. Voilà. Donc, si vous voulez, quand nous bagarrons constamment. Quand nous avons demandé qu'il y ait une deuxième autopsie, la deuxième autopsie a montré qu'il y avait eu des fractures qui n'avaient été passées sous silence lors de la première autopsie. Elle dit que la première autopsie est peu démonstrative. C'est gentil, c'est pour dire qu'elle ne démontre strictement rien. On ne sait pas de quoi il est mort. Et elle a mis en évidence que le corps avait été momifié. Et donc que tous les organes, la physiologie des organes était changée et donc on ne pouvait plus faire ces analyses. La peau elle-même était modifiée et donc on ne pouvait plus voir les coups. Or, quand en France, on fait une momification sans l'avis de la famille, sans que la famille signe et que ça soit déposé à la préfecture de police, c'est 15 ans de prison. Or, tout ça s'est fait dans la plus grande impunité. Et vous pensez bien qu'un assassin banal, si je puis dire, comment il aurait fait pour, quand on découvre le corps de mon père avec ce visage tabassé, dans n'importe quelle république, il y aurait eu bien sûr une radiographie et une expertise du crâne. Or, cette expertise du crâne n'a pas été faite sur ordre formel du procureur.
Parce que on a dit à l'époque, le procureur a dit, la famille s'oppose à cette autopsie du crâne, il faut laisser le visage intact, c'est ça ?
Alors, voilà, c'est ce qu'il a dit pour se défendre, sauf que la famille n'a rien à dire, sauf qu'il reconnaît que la famille ne l'a jamais appelé, ne l'a jamais vu, ne l'a jamais rien demandé. Il le reconnaît sur PV. Bon. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on nous ramène ce 30 octobre le corps de mon père dans un plastique transparent et qu'on le dépose sur son lit, ma mère immédiatement demande « Mais qu'est-ce que c'est que ces traces de coups ?» Et là, on lui répond « Mais madame, c'est l'autopsie du crâne. » Et donc, ce n'est qu'un an après, quand nous avons, par Maître Badinter, l'enquête préliminaire, qu'on s'aperçoit que l'autopsie du crâne n'a pas été faite sur ordre formel du procureur.
Voilà. Alors, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui, très tôt, très vite, vont considérer que ce n'est pas un suicide. Alors, le premier qui se manifeste dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, le 3 novembre, si ma mémoire est bonne, 1979, il est connu des Français parce qu'il s'appelle Pierre Marcilassi. Et il se trouve que il est par ailleurs sénateur de Charente, mais il est connu parce qu'il a été un des 6 candidats à l'élection présidentielle de 1965 au suffrage universel, la première du genre. Et Pierre Marcilassi publie une tribune dans Le Monde qui s'intitule « Je n'aime pas ça ». Et il met clairement en doute la thèse du suicide. Pourquoi est-ce que vous n'embrayez pas derrière? Pourquoi est-ce que vous n'accrochez pas derrière? Pourquoi est-ce que votre frère, qui est plus âgé que vous, qui travaille sur Paris, qui a eu des responsabilités associatives importantes dans l'éducation pour les jeunes, etc., qui a travaillé avec le docteur Livenstein à Marmottan, pourquoi est-ce que ça n'éveille pas une sorte de conscience ou de prise de conscience?
Alors évidemment, le sénateur Marcilassi a été très déçu que nous répondions pas à cela. Alors c'est simple, la vérité c'est que nous étions en état de choc, dans une très grande souffrance, repliés sur nous-mêmes, et en plus nous étions entourés de gens qui nous ont, par la suite, on a bien compris, trahis. Voilà. Et nous n'avons jamais su, nous n'avons jamais connu ce qu'avait écrit Marcilassi. Moi je l'ai découvert très tardivement. C'est tout simple, voilà. Nous ne regardions pas la télé. Quand vous êtes dans un état de choc et une grande souffrance, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux. C'était absolument loin de nous.
Mais Jacques Chaban-Delmas, Fabienne, Jacques Chaban-Delmas, ce qu'on appelle au perchoir de l'Assemblée nationale, et on peut considérer que Jacques Chaban-Delmas était très proche de Robert Boulin. Robert Boulin l'avait considérablement soutenu pendant la campagne présidentielle de 1974. En plus, la proximité entre les deux hommes était connue compte tenu de la proximité entre les deux villes, Bordeaux et Libourne. Jacques Chaban-Delmas emploie le mot « assassinat ». Et il vous dit à Villandreau, en présence de votre oncle, il faut que vous trouviez les dossiers. S'il n'y a pas de dossier, je sauterai exactement comme Robert.
Oui, je ne pèserai pas plus lourd que Robert.
Trouvez-moi les dossiers. Et alors après, il a remis en cause ce mot assassinat en disant que c'était une métaphore.
Oui, mais il a quand même dit aussi à Europe numéro 1 plusieurs jours après, en disant que ceux-là même qui ont donné le dossier à la presse, des terrains fausse affaire immobilière, ceux-là même sont des gens qui ont voulu détruire. Donc, et qu'il faut les chercher parce que ce sont là les commanditaires. Donc, c'était un homme qui. Mais son. Pierre Pascal, qui était son directeur de cabinet, a dit à Benoît Colombat que quelques jours avant, mon père lui a dit voilà, vous savez, s'il m'arrive quelque chose, sachez, il a dit un nom à l'oreille de Chaban-Delmas. Pierre Pascal dit qu'il ne l'a pas entendu, mais en tout cas, Chaban-Delmas savait très très bien d'où pouvait venir l'assassinat. Mais vous savez, il y a des gens qui font peur. Quand vous voyez la très grande violence dans ces années de fin 70, il y a eu quand même De Broglie qui a été assassiné, ensuite il y aura Fontané. Vous avez la tuerie d'Auriol un an et demi après, où
C'est au mois d'août 81.
Voilà, mais je veux dire, ce sont des pratiques terribles. C'est un policier qui appartient au SAC qui va être tué d'une façon sauvage avec 5 personnes de sa famille, notamment son fils de 7 ans, à coups de barre de fer. Donc nous ne sommes pas parmi les tendres. On est aussi parmi des gens qui sont capables de tout, car mon père, c'est pas ça. Simplement qu'il va devenir Premier ministre, parce que là, dans la Ve République, on tue quand même. On peut mettre des pots de banane pour ceux qui vont devenir Premier ministre, mais on ne les tue pas pour autant. Mais c'est vrai que mon père, souvenez-vous que avant l'été 79, il y a eu les élections européennes où le RPR était arrivé en 4e position, ce qui était une déconfiture terrible pour les Chiraciens. Et le fait que Robert Boulin, qui était un gaulliste incontesté et qui avait cette compétence et qui était très apprécié d'ailleurs des députés et des sénateurs, deviennent le Premier ministre, il devenait chef de la majorité. Donc c'était quelqu'un qui avait aussi, qui était un homme extrêmement honnête et qui n'aurait pas accepté certaines pratiques.
On va dire un mot peut-être pour bien comprendre la situation, à la fois de la trajectoire personnelle de Robert Boulin et le contexte politique, même je suis si certain que beaucoup s'en souviennent parmi les personnes présentes aujourd'hui. Robert Boulin, donc, il est né en 1920, il va donc mourir à 59 ans, il est originaire de Villandreau et il va avoir une conduite tout à fait exemplaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'étais très ému parce que quand on s'est rencontrés, vous m'avez fait voir une sorte de petit, c'est pas un journal de bord, c'est une sorte de livre d'actualité qu'il tient, en particulier, alors qu'il a 16 ans.
11 ans,
puis alors après il continue, parce que je dis 16 ans, parce que je pensais à 36, il continue sur la guerre d'Espagne, donc il découpe des articles de journaux qu'il colle sur ce gros cahier en suivant l'actualité, presque comme un correspondant de guerre, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressé, on va dire, globalement par la politique, et à l'âge de 20 ans, 21 ans, il s'engage dans la résistance, il va y tenir un rôle tout à fait actif, il est actif, considéré comme un agent permanent de la résistance dans les réseaux. Il va d'ailleurs être une petite histoire cachée chez Raymond Oliver, etc. Et puis il épouse votre maman à la fin des années 40. Il s'installe il reprend ses études de droit tardivement, finalement, qu'il a arrêté pendant la guerre. Il était lycéen au lycée... il était à Talence, non ?
Oui.
Victor Louis. Et puis, donc, il s'installe à Libourne et il va s'inscrire au barreau de Libourne comme avocat. Il s'engage en politique. Il est comme très souvent, à cette époque-là, cette génération jeune résistant gaulliste, il s'engage en politique. Il va gagner, comme on dit, la mairie de Libourne en 1959. En 1961, alors que vous êtes en vacances, il reçoit un coup de fil où on lui demande s'il accepte de rentrer au gouvernement. Le général de Gaulle lui demande s'il accepte de prendre le secrétariat d'État rapatrié. Il dit oui. Et de Gaulle lui dit, eh bien, Boulin, vous avez une belle gâche pour cette activité. Donc on est en 61. À partir de 61-62, d'ailleurs, Fabienne et son frère vont vivre sous la protection des forces de police, puisque l'OAS, on va dire, en fait une cible privilégiée de Robert Boulin. Et puis, il va être Robert Boulin, l'homme politique français qui va avoir la plus longue longévité ministérielle. On le compare à Colbert, puisqu'il va donc être, en dehors d'un intermède qui va être 1974 à 1976, il va être ministre depuis 1961 jusqu'à sa mort en 1979. En 1974, il soutient Jacques Chaban-Delmas, comme tous les gaullistes, j'allais dire, de stricte obédience, ou les gaullistes canal historique. Et par contre, 43 de ces gaullistes vont à l'appel et avec à la demande de Jacques Chirac, qui en réalité, on va dire, est le soutien et à la manœuvre Pierre Juillet et Marie-France Garraud, à la disparition de Georges Pompidou. Donc ces 43 vont appeler à soutenir Valéry Giscard d'Estaing. Et ça va être une première grande fracture. Ils vont appeler à soutenir Valéry Giscard d'Estaing derrière Jacques Chirac. Et Jacques Chirac donc va ainsi quitter, si on peut dire, le vaisseau amiral. Alors il est dans une tradition, on va dire, qui s'appellera après, plus tard, gaulo-pompidolienne. Et il soutient donc Valéry Giscard d'Estaing avec ses amis politiques. Jacques Chaban-Delmas va être l'objet on va dire d'une campagne plutôt haineuse entre le mois d'avril, le 2 avril et le premier tour, et il va terminer au premier tour à 17%, donc il est éliminé, il ne peut être, comme on dit, finaliste présent au deuxième tour. Ça va être la victoire de Valéry Giscard d'Estaing qui va battre François Mitterrand, d'assez peu de voix d'ailleurs, 200 000 voix, et Jacques Chirac, quelque part, se retrouve dans une situation de tirer les bénéfices de cet investissement, et le voilà qui rentre à Matignon. Finalement, les relations entre les deux hommes, il suffit de se reporter à la fois aux mémoires de Valéry Giscard d'Estaing, à celles surtout de Jacques Chirac, premier tome, et au dernier livre tout à fait passionnant de Bruno Dive qui s'appelle « Le dernier Chirac ». Les relations entre les deux hommes sont très vite exécrables, jusqu'y compris encore aujourd'hui, si j'en crois Bruno Dive, dans les séances du Conseil constitutionnel, ça ne demande pas que celle. Toujours est-il que Jacques Chirac claque la porte brutalement de Matignon en août 76, et Valéry Giscard d'Estaing fait appel à Raymond Barre. En 1974, évidemment, compte tenu du fait que Robert Boulin était un des plus proches soutiens de Jacques Chaban-Delmas, Robert Boulin, bah, il n'est pas rappelé au gouvernement par Valéry Giscard d'Estaing et par Jacques Chirac.
C'est lui qui ne voulait pas y aller non
plus. Et je crois que quelque part, il était un petit peu, il avait décidé d'ailleurs un peu de se retirer de la politique. Ça correspond à un moment de sa vie où on va dire qu'il va faire d'autres choix et il va s'impliquer dans d'autres instances. Finalement, il est rappelé. Non pas dans le premier gouvernement Barre en 76, mais un petit peu après. Si, et là, dès le premier gouvernement Barre, il va être secrétaire d'État. Tout de suite, il reprend la fonction publique.
La fonction publique, ministre de l'État.
Et donc, il réentame une carrière ministérielle, mais il est bien évident que si Valéry Giscard d'Estaing veut préparer dans de bonnes conditions la campagne de 81, il lui faut songer à prendre un autre Premier ministre que Raymond Barre, consécutivement en particulier à la montée forte de la gauche et précisément de François Mitterrand, qui entend bien prendre sa revanche en 1979. Il faut savoir qu'au niveau du Parti Socialiste, à peu près à la même époque, on est dans une pleine bagarre très forte entre Michel Rocard et François Mitterrand. C'est ce qu'on appelle le congrès de Metz, et François Mitterrand va l'emporter, et ça va le positionner pour la candidature et la campagne de 81 pour les présidentielles. Donc, vous voyez, c'est une période où les choses se recomposent énormément. Et donc, tout naturellement, à partir de l'été 79, un certain nombre de gaullistes qui ne voyaient plus Robert Boulin, il le dit, recommence à lui parler, viennent le voir. Il se dit, il se murmure, il bruit à Paris l'information selon laquelle Robert Boulin pourrait être dans les starting blocks de Matignon. Et donc, de la même manière qu'il va y avoir une campagne de presse tout à fait, là aussi, disqualifiante, et diffamatoire à l'égard de Raymond Barre sur une histoire de villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au même moment, pratiquement, va sortir cette affaire de Ramatuel, qui est donc une affaire montée de toute pièce, d'une certaine presse en particulier, Minute d'ailleurs. Dans les jours qui précèdent la disparition de votre papa, il intervient à Europe numéro 1, et Yvan Levaille, qui l'interview, le dit encore aujourd'hui, il se montre extrêmement combatif sur le site de l'INA et sur le site que Madame Boulin a mis en place. On voit ces images. Votre papa semble pas du tout quelqu'un désespéré.
Alors Gérard Carrérou, qui dirigeait aussi ce club de la presse, a été très impressionné par cet homme la vérité qui se dégageait, et puis la discussion qu'il a eue après le club de la presse. Il leur a dit très simplement qu'il savait que c'était une certaine partie de ses propres amis politiques qui voulaient en tout cas s'attaquer à lui, qu'il avait décidé de se défendre, qu'il avait encore 8 jours de difficile avant d'avoir raison de ses ennemis. Et donc, 8 jours après, il était mort. Mais Gérard Carrérou était quelqu'un qui est convaincu absolument de l'assassinat, et il a décidé depuis 15 jours de former un comité de journalistes pour que des journalistes s'engagent lors de prochaines élections présidentielles, de demander systématiquement à tous les candidats à la présidentielle s'ils sont élus, s'ils s'engageraient à réouvrir l'instruction. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui continue, Gérard Carrérou, à vouloir aider à ce que cette vérité se fasse.
On a le sentiment également que tout le temps, vous, votre famille, votre entourage, des personnes qui ont souhaité témoigner, qui ont apporté des informations. Dans votre livre, page 196-197, il y a un témoignage très émouvant de Bernard Fonfred, qui a été l'assistant parlementaire de votre papa, de Robert Boulin, qui s'est fait littéralement tabasser en 2003, laissé quasiment pour mort, dans le coma, qui ne se souvient absolument plus de rien, parce que c'est celui qui avait été amené à nettoyer, on va dire, les archives de votre père dans la permanence de Libourne. Voilà.
Dans la semaine qui a suivi la mort de mon père et 3 semaines après, il y a eu un ordre du SAC venant de Paris demandant qu'on détruise toutes les archives qui étaient à notre domicile de Libourne, sans que nous en sachions rien. Je l'ai appris que bien plus tard, quand je suis venue à Libourne, et que quelqu'un qui avait participé, pensant le faire au nom de la famille, était très étonné. Enfin, il est venu se présenter à moi. Et c'est comme ça que j'ai connu le poteau rose. Mais effectivement, toutes les archives ont été détruites. Et cet homme avait été chargé de faire le tri. Or, il n'y avait pas de tri parce que tout a été détruit. Bon. Mais on a bien conscience qu'il y a des dossiers qui ont disparu et des dossiers que certains cherchent, n'ont pas cessé de chercher. D'ailleurs, je pense que si mon père était tabassé, contrairement à d'autres à qui on met deux balles dans la tête, c'est parce qu'on a essayé de le faire parler pour retrouver des dossiers. Et que mon père était un homme qui avait un très grand courage physique. Et ce dossier, je pense qu'effectivement, Fonfred, ils ont voulu, peut-être cet homme qui avait regardé tous les dossiers, avait peut-être connaissance de ce qu'il n'aurait pas dû voir. Donc il a été effectivement attaqué sauvagement. Le plus bizarre, c'est que quand il était le chirurgien qui l'a opéré lui a dit, mais vous savez, vous avez eu très nettement un coup en même temps devant le crâne et derrière le crâne. Il y avait deux personnes qui vous ont agressé, parce que lui ne se souvient plus. Il a perdu une partie de sa mémoire. Et donc, quand sa femme est allée voir le commissariat pour dire, écoutez, voilà, on porte plainte, hein, d'après ce que nous a dit le chirurgien, c'est bien une attaque. Moi, je dis, bah, écoutez, quand votre mari ira mieux, il viendra porter plainte, vous ne pouvez pas faire pour lui, à moins qu'il ne meure. Bon, alors ça a duré très longtemps, il est resté des mois à l'hôpital, et quand il a demandé...
La fin de son témoignage, Fabienne, c'est une fois que je suis sorti de l'hôpital, mon avocat, bâtonnier à l'époque, ça se passe au SAMU de Bordeaux, hein, me conseilla de ne pas porter plainte. Ils t'ont raté une première fois, ils ne te rateront pas la deuxième. Je n'ai donc jamais porté plainte. J'ai en ma possession les certificats médicaux et différents articles de presse. Voilà. Vous pensez, mais Benoît Colomba aussi, hein, dans son remarquable travail, hein, 5 ans d'enquête, hein, dans un livre qui s'appelle donc « Un homme à abattre » et qui, encore une fois, extrêmement complémentaire. Hein. Moi, j'ai lu les deux successivement. Enfin, d'abord le livre de Colomba, il y a 2 ans, et le vôtre. Maintenant, Benoît Colomba, dans une dernière partie, évoque évidemment les fameux dossiers en question et il fait état d'une... réflexion de Jean de Lipovski, qui était un député RPR, on va dire habitué des coups, et lui aussi, ancien des SAS, des SAS pendant la Deuxième Guerre mondiale, un homme, on va dire, qui ne répugnait pas au contact, député RPR, qui portait un toast ou des toasts dans un certain nombre de rencontres en ville, trois semaines avant la disparition de votre père, et disant, mais Robert Boulin, on n'en entendra bientôt plus parler, et quasiment, enfin, il disparaîtra, ou on n'en entendra plus parler, l'affaire sera réglée d'ici 3 semaines. Alors, Benoît Colomba évoque évidemment les fameux dossiers de la France-Afrique, et les dossiers de financement des partis politiques qu'on a vu revenir après, bien sûr, dans d'autres affaires, en particulier l'affaire Elf, mais d'autres dossiers particuliers, bien sûr, l'Angola Gate, etc. En disant, finalement, Robert Boulin avait, de son passage dans un certain nombre de ministères, en particulier au budget, hein, à l'époque, on ne disait pas Bercy, c'était la rue de Rivoli, c'était l'actuel musée du Louvre, avait vu un certain nombre de pratiques tout à fait scandaleuses. Et il vous disait, d'ailleurs, en famille, ça serait quand même terrible que ce soit les truands qui gagnent quelque part.
Oui, oui. Mais c'est vrai que Benoît aussi a fait une chose très intéressante, c'est qu'il a écrit aux États-Unis à la CIA pour demander si la CIA avait un dossier sur la mort de Robert Boulin. Donc on lui a répondu qu'effectivement, la CIA avait un dossier sur la mort de Robert Boulin. En fonction, vous savez qu'aux États-Unis, on peut demander à avoir accès aux archives, le Patriot Act. Et donc, il demande d'avoir accès aux archives. On lui répond, au bout de quelques mois, que ce n'est pas possible dans ce cas-là, parce que ça gênerait les relations entre la France et les États-Unis. Donc, vous imaginez, quand, s'il s'agissait d'un suicide, on ne voit pas pourquoi.
Alors, qu'est-ce que vous demandez précisément avant de passer la parole à la salle au jour d'aujourd'hui, Madame Boulin ? Donc, vous avez fait une requête auprès de la CEDH avec Maître Olivier Maurice pour faire connaître la France pour finalement absence de prise en compte d'une plainte, c'est ça ? Enfin, mm-hmm. Voilà. Et vous demandez la nomination d'un juge d'instruction.
Eh bien, écoutez, je suis le procureur général peut à tout moment, Monsieur Faletti, décider d'une réouverture de l'instruction. Compte tenu quand même de tous ces dysfonctionnements graves, on pourrait enfin quand même étudier le dossier d'une façon sereine et performante. Mais je ne suis pas la seule, bien sûr, à le penser. Nous avons eu un appui extrêmement important de la part d'Yves Corneloup, qui a été 3 ans juge d'instruction dans le dossier Boulin et qui est de nos jours membre de la Cour de cassation, à la chambre criminelle, et qui est sorti pour la première fois de sa réserve, je pense la dernière fois de sa vie.
C'est tout à fait exceptionnel. Oui,
c'est exceptionnel. Il a dit, quand la requête nous a été refusée, qu'il était tout à fait normal qu'il y ait une réouverture de l'instruction et que les lettres dites posthumes soient examinées et qu'une recherche ADN soit faite. Voilà. Et donc, on ne peut pas comprendre pourquoi aujourd'hui, cette simple demande qui est tout à fait normale vis-à-vis de nos institutions soit si difficile à acquérir.
Quand on ouvre votre livre, on voit toute une liste d'acteurs. Alors, il y en a, j'allais dire, évidemment, hélas, un certain nombre qui ont disparu. Il y a Jean Charbonnel est toujours vivant. Il y a la fille d'Alexandre Sanguinetti qui a déposé aux États-Unis dans un coffre, c'est ça, noms, parce que son père lui a donné des noms.
Alors, son père a fait tout de suite, dès que mon père est mort, Alexandre Sanguinetti, qui a été un de ceux qui ont créé le SAC, mais le SAC à l'époque où c'était pour aider le général de Gaulle, parce qu'il y a eu plusieurs SAC. Le SAC des fins des années 70 n'est pas le même SAC que le départ, et qui était devenu mafieux dans les fins des années 70. Mais Alexandre Sanguinetti a fait sa propre enquête tout de suite et a su... mais très immédiatement que mon père avait été assassiné. Et il a effectivement donné à Jean Charbonnel comme à Laetitia, sa fille, les deux noms des assassins. Donc Laetitia les a mis dans un coffre parce qu'elle attend...
Le commanditaire et l'opérationnel.
Et voilà, exactement. Et donc elle attend qu'il y ait un juge d'instruction parce qu'elle ne veut parler qu'un juge d'instruction. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que depuis 20 ans, il n'y a plus de juge d'instruction dans cette affaire. Ça veut dire que je peux demander la réouverture de l'instruction sur fait nouveau à tout moment. C'est-à-dire que c'est moi qui dois faire l'enquête, trouver des témoignages nouveaux, des faits nouveaux. Et il faut bien dire que quand j'en trouve, avec l'aide d'ailleurs de très bons journalistes d'investigation aussi, ou bien des gens qui viennent, qui ont ce courage-là, eh bien on ne les entend pas. Évidemment, M. Jean Charbonnel ne va pas donner le nom comme ça en pâture devant les télévisions. Il est normal qu'un juge d'instruction l'entende, et ça doit se passer comme ça. Vous avez aussi des pompiers qui me disent « ça ne s'est pas du tout passé comme on le dit ». On voudrait bien sûr être relevé de notre obligation de réserve, et seul un juge d'instruction peut le faire. Voilà, c'est très impressionnant. Alors, ce que je voulais aussi dire... pour terminer, c'est qu'il y a quelques semaines, le procureur chargé de l'enquête de l'époque, moi j'ai tué le nom dans mon livre parce que la jurisprudence lui reconnaît le droit à l'oubli, mais lui a fait une page dans Paris Match, donc il donne son nom, Monsieur Barba, et il dit des choses incroyables encore, parce qu'il raconte qu'il était là, présent, quand les pompiers ont tiré par les pieds mon père, et que le visage est allé pendant plusieurs mètres se griffer le long de l'étang, et qu'ensuite la tête a heurté une marche en pierre. Alors le problème, c'est que tous les témoins disent qu'au contraire, les pompiers ont été très respectueux et l'ont pris sous les aisselles, qu'il y a des photos de l'identité judiciaire où on voit qu'il n'y a pas de marche en pierre. Voilà. Et on continue, là, il y a encore 15 jours, à dire des choses qui sont contraires aux faits.
Voilà, et on termine par l'apparition dans cette affaire de Laurence Wisniewski, collègue de travail d'Eva Joly, députée Europe Écologie Les Verts depuis 2010. Le 9 janvier, elle fut nommée juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris. 9 janvier 91, elle fut nommée juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris et chargée du dossier Boulin en remplacement du juge Verlaine. Le 17 janvier 91, 8 jours après, elle transmit le dossier au parquet pour règlement, le dossier faisant plusieurs milliers de pages. 18 jours après le retour du dossier, elle rendit le 20 septembre 91 une ordonnance de non-lieu conforme aux réquisitions du parquet.
Mot pour mot.
Et puis, autre personnage qui ne figure pas dans le texte, mais que c'est intéressant, au cabinet de M. Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, le jeune préfet conseiller technique en charge des questions de sécurité intérieure s'appelait Claude Guéant et il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Mmh. Voilà.
Et vous avez aussi M. Soubi qui était chez Raymond Barre. Donc, il y a encore beaucoup de gens qui auraient des choses à dire. Et s'il y avait un juge d'instruction, M. Claude Guéant devrait nous expliquer, puisque c'est lui, dès 11h du soir, c'est lui qui a enclenché les recherches. Et comme on a retrouvé très tôt le corps de mon père, il faudrait quand même qu'il nous explique comment ça s'est passé.